Vous écoutez On lit pour vous.
Tradwife ou Parfaite épouse pour mâle alpha. Un texte de Boucar Diouf paru le 20 septembre 2025 dans la presse. Parallèlement au mouvement masculiniste qui envahit la toile et prêche des sornettes à profusion, on trouve de plus en plus dans les réseaux sociaux des filles qui font écho à leur idéologie de domination et s'affichent comme des tradwives. Le Québec n'échappe plus à cette offensive venue de la droite religieuse américaine. Cela dit, entendons-nous bien. Je crois profondément qu'une femme a entièrement le droit de préférer rester à la maison, d'avoir beaucoup d'enfants avec son conjoint, de lire la Bible et de s'occuper du foyer. Là n'est vraiment pas mon motif d'indignation. Ce qui me dérange, comme papa d'une jeune fille, c'est quand cette même personne décide de monter en chaire dans les réseaux sociaux pour faire la promotion de son choix et le présenter comme une vertu sociétale qui gagnerait à devenir la norme. En effet, il faut être dupe pour ne pas réaliser que derrière les dix choix, si volontaires, semble-t-il, il y a souvent une manosphère qui encourage et complimente ces femmes s'inscrivant ostensiblement dans leur idéologie misogyne. Cette agente de recrutement finit tellement par croire à la cause qu'elle oublie que ce qu'elle considère comme un choix personnel, la droite religieuse travaille à en faire une obligation et un devoir de soumission à une volonté divine. Il suffit de s'intéresser un peu à l'histoire des luttes féministes pour l'accès au droit de vote pour réaliser que le phénomène n'est pas nouveau. Lorsque quelques centaines de femmes de fédérations et de groupes féministes ont marché jusqu'à l'Assemblée législative sous le gouvernement d'Adélard Godbout en 1940 pour réclamer l'adoption du suffrage féminin, il y avait aussi des opposantes pour critiquer leur demande avec la bénédiction discrète du patriarcat et des autorités religieuses. Une bonne partie de ces ennemis de la cause faisait partie de l'élite conservatrice proche de l'Église catholique. Que disaient ces antiféministes pour nuire à la lutte que menaient leurs sœurs? Un peu la même chose que ce qu'on entend aujourd'hui, sortir de la bouche des influenceuses se décrivant comme des tradwives pour servir les projets de la droite religieuse américaine. Elle racontait, entre autres, que le suffrage féminin menaçait cette valeur fondamentale qu'est la complémentarité des rôles dans un couple. Elle redoutait que le droit de vote n'éloigne les femmes de leurs devoirs domestiques. Certains groupes anti-suffragettes trouvaient même que les femmes n'avaient pas besoin de choisir parce qu'elles étaient déjà représentées par leur mari dans l'arène politique. Sous les acquiescements silencieux du clergé, des associations de dames catholiques voyaient dans le droit de vote des femmes la chronique d'un désordre social annoncé, une instabilité que l'Église associait à un certain risque de voir arriver au pouvoir des partis anticléricaux. Pour protéger leur propre zone d'influence, les autorités religieuses encourageront certaines antiféministes qui ne pouvaient envisager la place de la femme ailleurs que dans les affaires familiales et la charité chrétienne à se positionner comme des influenceuses et faire valoir leurs idées dans les journaux. Disons, en résumé, que les idées cléricales que charriait cette lointaine fronde antiféministe sont en phase avec les idées des tradwives américaines qui font des émules au Québec et au Canada, idées indissociables de la droite religieuse favorable à Donald Trump. D'ailleurs, des pasteurs chrétiens identitaires appartenant au CREC, Communion of Reform Evangelical Churches, des religieux proches du trumpisme, ont récemment fait la manchette sur le sujet. La vidéo relayée par Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des États-Unis, proposait de revenir à ce système de vote par foyer où les pères de famille seraient les seuls mandataires. Mais que cherchent ultimement cette frange chrétienne qui instrumentalise l'antiféminisme numérique. À mon avis, elle cherche à retourner l'Amérique avant le Voting Rights Act de 1965, qui a été signé par Lyndon B. Johnson pour interdire la discrimination raciale dans l'exercice du droit de vote. Je m'éloigne ici du sujet en parlant de racisme, mais pas trop. En effet, ces deux systèmes d'exclusion sont souvent liés. En arrière de cette idéologie antiféministe qui fait une peau neuve dans les médias sociaux, se cache aussi le suprémacisme blanc américain, une nébuleuse où la misogynie, la xénophobie, l'homophobie et la transphobie marchent main dans la main. Donald Trump cache à peine sa volonté de redonner à l'Amérique sa blancheur, plus que sa grandeur. La preuve, on ne voit presque que des hommes blancs autour de lui. Ce qui ne doit certainement pas déplaire à cette mouvance religieuse qui s'accroche à son projet de plus en plus totalitaire pour faire avancer son propre programme. Toute cette effervescence qui incite à une augmentation de la natalité, un retour des femmes au foyer, est en grande partie l'expression de gens qui craignent que la mainmise des hommes blancs sur le pays ne s'affaiblisse. Si on gratte un peu, les thèses du grand remplacement ne sont jamais loin du fameux Turning Point USA, cette entreprise hyper conservatrice qui faisait la notoriété et surtout la fortune de Charlie Kirk. Donald Trump propose des incitatifs en faveur de la natalité en même temps qu'il expulse massivement des personnes venues d'ailleurs qui travaillent déjà dans le pays. Où est la logique? Elle est en grande partie dans l'origine ethno-raciale. Vous écoutez Tradwives ou Parfaites épouses pour mâle alpha, un texte de Boukhar Diouf paru le 20 septembre 2025 dans La Presse. Cette frange du nationalisme identitaire américain avance désormais à visière levée et considère l'utérus de la femme blanche comme une arme de résistance. Pensez ici à G.D. Vance et sa déclaration sur les « childless cat ladies », les femmes aux chats sans enfants, ou à Charlie Kirk, conseillant à Taylor Swift de se soumettre à son conjoint et de lui faire beaucoup d'enfants. Il y a aussi le cas d'Elon Musk, qui se prend pour un Starbucks porteur d'une semence de génie. La richesse et le pouvoir ont réussi à convaincre M. Musk qu'une dissémination de sa génétique ne peut qu'être bénéfique pour l'humanité. Comment faire comprendre à un mégalo de sa trame qu'il n'est pas plus important qu'un pissenlit dans la biosphère? Pourtant, la planète a bien plus besoin d'un pissenlit que d'Elon Musk ou de Boukhar Diouf. Au moment où la biodiversité agonise, victime de la surreprésentation et de la gourmandise de notre espèce, l'anthropocentrisme sur fond de religion amène ces gens à penser que la nécessité de décupler leur succès reproducteur est plus importante que tout le reste. Dans le contexte, mieux comprendre le phénomène des tradwives nécessite de s'intéresser aux apôtres qui félicitent, encouragent et couvrent ces appâts de compliments pour mieux les assujettir à leur entreprise liberticide. Évidemment, il faut ajouter la part de l'argent à cette équation, car tout cet écosystème est aussi monétisable. Comme le dit une sagesse yankee, « Follow the money », autrement dit, si l'on veut bien comprendre, suivre l'argent est la meilleure des pistes d'enquête au pays de l'oncle Sam. Or, les médias sociaux ont hissé la discrimination sous toutes ses formes au rang d'une des business les plus lucratives du capitalisme numérique, surtout en ces temps d'anxiété identitaire sur fond de crise climatique et d'immigration de masse. Pour aider vos jeunes à s'éloigner de ces inepties. Pourquoi ne pas leur faire lire le bouquin de la grande Micheline Dumont intitulé le féminisme québécois raconté à Camille. Ce n'est pas la première fois que j'évoque ce livre dans une chronique. En ces temps où la misogynie se drape dans un nouveau champ lexical pour séduire plus large, je crois même qu'on devrait en faire une lecture obligatoire à la fin du secondaire. On gagne à garder nos enfants bien loin des idées de cette Amérique trumpiste qui avance chaque jour vers le précipice, à leur dire qu'il y a une grande liberté existentielle dans le fait d'être autosuffisant quand vient le temps d'assouvir ses besoins vitaux dans la pyramide de Maslow. On gagne surtout à leur faire comprendre que la vraie liberté, c'est d'avoir le courage, le droit et les moyens de partir quand notre partenaire ne fait plus la différence entre aimer une femme et posséder une femelle. Je ne crois pas que ces principes de base au cœur du féminisme fassent partie du discours des tradwives. C'était « Tradwives ou parfaite épouse pour mâle alpha », un texte de Boukhar Diouf, paru le 20 septembre 2025 dans « La presse ».
Accueillir les insectes dans son jardin, un texte de Marjolaine Giroux, paru dans le magazine Quatre Temps, automne 2022, volume 46, numéro 2. Voulez-vous observer des lucioles dans votre cour arrière, des papillons dans vos plates-bandes et des coccinelles dans votre potager? C'est parti! Écoutez, observez, les insectes communiquent. Attirer les insectes dans son jardin, c'est découvrir leur fascinante diversité, mais c'est aussi observer leur mode de vie, souvent très particulier. On le sait, certains insectes, dont les criquets, les grillons et les sauterelles, chantent au cours des nuits d'été. Ces chants d'insectes, répétés à intervalles réguliers, sont produits par les mâles qui communiquent avec les femelles. Le plus souvent, ces insectes chanteurs se cachent dans des zones d'herbe haute. L'aménagement d'une zone d'herbe folle, composée de plantes ornementales et indigènes, permettra donc de les accueillir et de les écouter le soir venu. Les lucioles, mâles et femelles, s'illuminent durant les chaudes soirées estivales. Leurs signaux luminescents attirent le sexe opposé. Chez plusieurs espèces, le mâle émet des clignotements lumineux en vol et est attiré par la réponse lumineuse de la femelle au sol. L'accouplement a lieu à la noirceur. Ainsi, pour favoriser la présence des lucioles dans son jardin, il est recommandé de ne pas l'éclairer et de choisir des plantes de différentes hauteurs. En outre, l'aménagement d'un petit jardin d'eau ajoutera un élément décoratif à votre milieu de vie tout en favorisant l'installation de ces insectes qui sont attirés par les milieux plus humides. Un petit monde diversifié et utile. Tout bon jardinier gagnera à accorder aux insectes et aux autres arthropodes l'importance et l'attention qu'ils méritent, car ces derniers lui rendent d'innombrables services. D'abord, les pollinisateurs, dont les abeilles, les guêpes, les bourdons, les papillons et les sirfes, qui butinent de fleur en fleur et assurent la production de fruits et de graines. Puis, les prédateurs et les parasitoïdes, très variés, qui sont des alliés contribuant à conserver l'équilibre des populations d'insectes indésirables. Enfin, certains insectes, dont plusieurs espèces de mouches et de coléoptères, accélèrent le processus de décomposition de la matière organique. Ils deviennent alors des acteurs importants qui collaborent à l'enrichissement des sols. Quelques règles à suivre. Sélectionnez d'abord des plantes nectarifères qui fleurissent à différents moments au cours des saisons. Ces plantes offrent nectar et pollen aux insectes pollinisateurs et nous permettent d'admirer ces insectes à l'œuvre du printemps à l'automne. Laissez croître des plantes indigènes. Vous pouvez, par exemple, limiter la tonte du gazon au cours de l'été ou sur certaines parcelles de terrain afin de voir fleurir les épervières, Hieracium spp et autres plantes estivales. Au début de l'automne, les astères, dont l'aster de Nouvelle-Angleterre, Symphyotrichum novae angliae et les verges d'or, Solidago spp, servent aussi de ressources alimentaires aux pollinisateurs tout en maintenant des plates-bandes colorées et variées. La plantation d'arbustes fruitiers favorise l'activité d'une multitude d'insectes tout en vous permettant de cueillir de petits fruits frais au cours de l'été. Enfin, laissez fleurir une partie de vos fines herbes, car plusieurs d'entre elles produisent des fleurs riches en nectar. Pensez aussi à créer des microclimats en occupant différents espaces et paliers. Les haies protègent du vent et créent des milieux isolés, tout en maintenant des conditions semi-ouvertes et non ombragées. Les murets de pierre avec leurs anfractuosités se réchauffent au soleil et constituent alors des abris pour les insectes actifs au sol, dont les carabes et les grillons. Souvenez-vous qu'un espace favorable accueille non seulement des plantes variées, mais aussi des plantes aux formes et aux hauteurs différentes. Par exemple, un mur enjolivé d'une plante grimpante constitue un refuge de choix pour une kyrielle d'insectes volants. Certaines de ces plantes, par exemple l'azarine grimpante, Azarina scandens, attirent les papillons et autres butineurs. Réserver des coins sauvages pour certains insectes est aussi une bonne idée. Par exemple, la terre battue, légèrement sablonneuse, accueille de nombreux insectes fouisseurs, dont des cicindelles et des abeilles solitaires, qui y font leur nid. Elles ne sont pas agressives et travaillent sans relâche. Quel plaisir de les observer s'activer quelques semaines, le temps de leur reproduction. Enfin, si votre espace est restreint, pourquoi ne pas installer des nichoirs à insectes dont la mise en place facilite l'implantation d'abeilles maçonnes, Osmia et Oblitis? Si la présence des insectes au jardin réserve parfois de bien belles surprises, elle est aussi essentielle à l'épanouissement et à l'équilibre de cet exceptionnel milieu de vie. Quand certains insectes pullulent. Bien que les insectes soient utiles à Dame Nature, il arrive souvent que le jardinier soit incommodé par certaines espèces dont la présence n'est pas toujours appréciée. Ainsi, le scarabée japonais, Popilia japonica, et la punaise marbrée, Haliomorpha alice, qui se nourrissent de nombreuses plantes, peuvent rapidement détruire le feuillage de nos plus belles plates-bandes. L'élément le plus important pour éviter une invasion d'insectes est de surveiller régulièrement ces plantes et ces aménagements. Il est beaucoup plus facile de contrôler les insectes ravageurs s'ils sont détectés dès le début d'une infestation. Idéalement, les plus gros insectes, comme les scarabées, les punaises et les chenilles, par exemple la pyrite du chou, sont cueillis à la main puis noyés dans de l'eau légèrement savonneuse. Pour éviter de les manipuler, on peut aussi les faire tomber directement dans l'eau à l'aide d'un bâtonnet. Cela évite de les écraser et permet d'en disposer plus aisément en les jetant au compost, par exemple. Si les insectes sont cachés dans les feuilles et les tiges, on peut les éliminer en détruisant les parties infestées de la plante. S'ils sont mous, comme les pucerons et les petites larves, on les affaiblit en les vaporisant d'une solution d'eau savonneuse, tout en les écrasant simultanément avec les doigts. C'était « Accueillir les insectes dans son jardin », un texte de Marjolaine Giroux, paru dans le magazine Quatre Temps, automne 2022, volume 46, numéro 2.
Pourquoi vivre parmi les riches rend malheureux? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 27 août 2023 dans La Presse. Et puis, avez-vous pu prendre des vacances cet été? De mon côté, ma famille a cassé son petit cochon pour aller en Europe, où nous n'étions pas allés depuis plus d'une décennie. Même si nos vacances ont été géniales, que nous avons des souvenirs et beaucoup trop de photos dans nos téléphones, je ne suis pas du type à broyer du noir à mon retour au pays, c'est plutôt le contraire. Par exemple, j'aime aller courir sur le Mont-Royal, mais j'admets qu'au bout d'un certain temps, il cesse de me fasciner, je le remarque moins. Mon esprit sait que c'est beau, mais le côté immédiat de la beauté ne me frappe plus. Peu à peu, je me mets à comparer une sortie de jogging sur le Mont-Royal avec ce que ce serait dans les Laurentides, par exemple. Et je réalise que le Mont-Royal a ses limites. Mais après avoir couru dans de grandes villes de France cet été, je suis retourné sur le Mont-Royal et là, j'ai compris. Quelle métropole de plus de 4 millions d'habitants dans le monde a en son centre une gigantesque explosion de verdure où la végétation est aussi dense? Où on peut trouver de la fraîcheur et de la tranquillité si facilement? Où on peut prendre d'aussi belles photos d'écureuils? OK, oubliez la dernière ligne. Le Mont-Royal est incroyable, mais il faut aller ailleurs pour le réaliser. En comparant le Mont-Royal aux Laurentides, j'étais sous l'influence de ce que les psychologues appellent le biais de disponibilité. C'est le biais qui consiste à utiliser des informations immédiatement disponibles comme point de repère, plutôt qu'à chercher à élargir notre champ de comparaison en découvrant de nouvelles informations. Aujourd'hui, je compare le Mont-Royal à ce qu'on trouve dans les villes européennes. Des villes qui ont des parcs magnifiques, mais où les bâtiments ont depuis des siècles avalé un espace de l'envergure du Mont-Royal. Bref, je réalise que le biais de disponibilité travaillait secrètement à plomber mon humeur. Pas énormément, juste un peu. Ce biais s'immisce dans toutes sortes de facettes de notre quotidien et mine notre capacité à être heureux. Par exemple, lorsqu'on compare nos vies à celles de gens qui ont vécu il y a 50 ou 100 ans, on réalise qu'on vit dans une période d'abondance si totale et extrême qu'elle serait impossible à imaginer par nos ancêtres. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Notre point de comparaison n'est pas 1923, mais bien 2023. Il se présente sous la forme de nos amis, collègues, voisins, de même que les gens que l'on observe sur les réseaux sociaux. Et peu importe notre revenu, nous pouvons toujours comparer avec une ou des personnes qui ont un plus grand train de vie que nous. C'est pour cette raison que vivre parmi les gens fortunés alors qu'on appartient à la classe moyenne est mauvais pour la santé mentale, comme l'a démontré une étude réalisée il y a plusieurs années par des chercheurs de l'Université de Warwick et de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni. C'est que notre train de vie sera toujours un peu en dessous de celui de notre groupe de référence et nous n'aurons jamais l'impression de vivre comme on le devrait. Le site Bloomberg a exploré ce phénomène cet été dans un dossier intitulé « Are you rich? » Êtes-vous riche en français? les journalistes ont interviewé des gens qui gagnent plus de 175 000 $ US, 235 000 $ canadiens, par année, soit faisant partie des 10 % d'Américains les mieux rémunérés, mais qui ne se sentent pas riches pour autant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en comparaison avec les gens autour d'eux, ils n'ont pas un train de vie si remarquable. Un homme de 33 ans interviewé dans l'article, qui voyage beaucoup et fréquente de bons restaurants, dit « Il y a 10 ans, si j'avais su que je gagnerais autant d'argent qu'aujourd'hui, j'aurais été sidéré. J'aurais dit que j'étais en train de vivre à fond. Aujourd'hui, bien que je sois financièrement à l'abri, je n'ai pas l'impression de gagner beaucoup. Gagner 235 000 $ canadiens par an, c'est avoir accès à un geyser d'argent que 99 % des humains ayant vécu sur cette planète n'ont jamais pu contempler. Mais si c'est notre cas, et que nous sommes entourés de gens qui gagnent 500 000 $, 750 000 $, 1 million, nous n'aurons pas l'impression d'être riches. Qu'on soit riche ou pas, nous devons nous obliger à regarder ce que nous avons et à réaliser à quel point nous sommes privilégiés. Prenons même quelques instants pour songer à comment on se sentirait si on perdait tout ça du jour au lendemain. J'utilise le mot « obligé », car notre cerveau ne le fera pas tout seul, il en est incapable. Son rôle est de toujours en vouloir plus. Plus d'expérience, plus de possessions, plus de nouveautés. Ce réflexe nous a longtemps bien servi. Sans lui, les humains habiteraient encore dans des grottes humides. Mais dans le monde moderne, cet automatisme s'emballe et cause de la frustration et de l'anxiété qui n'ont pas lieu d'être. J'ai lu une phrase récemment qui disait « Si vous n'êtes pas heureux avec un café, vous ne serez pas heureux avec un yacht. » À 20 ans, cette phrase m'aurait fait rire. Aujourd'hui, je n'ai qu'à regarder autour de moi pour constater sa justesse. L'automobile en question. Parlant de bonheur, j'ai pris plaisir à vous lire la semaine dernière au sujet des automobiles. Je suggérais de dépenser 10 % des revenus de son ménage pour acheter un véhicule. René écrit « J'ai acheté mon véhicule l'an dernier, une Subaru Outback 2011, au coût de 3 500 $ qu'un ami vendait pour s'acheter une camionnette F-250 à presque 100 000 $. Mon revenu de l'an dernier était de 180 000 $ et je peux vous dire que mon auto fait très bien l'affaire. » Benoît écrit « À 60 ans, je n'ai jamais acheté de voiture neuve et mes actifs financiers dépassent le million depuis plus de 10 ans. J'achète des véhicules d'occasion de 4 à 5 ans, ayant environ 80 000 km au compteur, et je les conserve jusqu'à ce que l'odomètre atteigne 250 000 km. Je conduis présentement une Chevrolet Volt, une voiture hybride rechargeable, qui me coûte 400 $ en essence aux 20 000 km. J'avais aussi pressenti que je me ferais engueuler, et je n'ai pas été déçu. Martin écrit « Vraiment, prendre un revenu annuel moyen et suggérer un achat sur une période de 5 ou 10 ans, waouh !» Et on termine en disant que l'on est actionnaire de Volkswagen et autres. « Bien oui, petit vantard, moi aussi, je suis actionnaire de Tesla depuis 7 ans. Cela ne me donne pas le droit de tenter de ridiculiser les gens. » Je ne crois pas avoir été méprisant, à moins que vous ne soyez un siège en cuir ou un 4x4 de l'année. Pour ce qui est d'être vantard, j'allais me défendre. Mais j'ai commencé ce texte en me vantant de mon voyage en Europe et de faire du jogging. Adjugé coupable. C'était « Pourquoi vivre parmi les riches rend malheureux », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 27 août 2023 dans La Presse.
Élections municipales. Ici, on exigeait des engagements concrets pour l'inclusion. Une chronique de Christian Généreux parue le 28 août 2025 dans le magazine Fugue. En novembre prochain, la population du Québec sera appelée aux urnes pour élire leur prochaine équipe municipale. Ici, cette fois-ci, on profitait de l'occasion pour parler d'inclusion. Pas seulement en surface, pas juste en affichant un drapeau arc-en-ciel une fois par année, mais en posant des gestes concrets, durables et mesurables. C'est exactement ce que propose la certification MIC+. Un programme développé par le JAG, seul organisme communautaire LGBT+ régional de la Montérégie, qui accompagne les municipalités sur son territoire desservi afin qu'elles deviennent des milieux de vie inclusifs, sécuritaires et respectueux. Pour les personnes LGBT+, certes, mais qui peut s'en inspirer aussi pour toutes les diversités. L'objectif, que les municipalités de la Montérégie soient des endroits où chaque personne, peu importe son orientation sexuelle, son identité de genre, sa condition sociale, son origine ou ses capacités, se sente accueillie et en sécurité. Pourquoi c'est important de poser la question maintenant? Les élections municipales sont le moment où les personnes candidates ont besoin de votre vote et sont le plus attentives aux préoccupations citoyennes. En parlant de la certification MIC+, on envoie un message clair. L'inclusion et le respect ne sont pas des options, ce sont des priorités. La certification MIC+ n'est pas un simple sceau décoratif, c'est un engagement concret. Démontrer une volonté politique réelle en matière d'inclusion. Faire un diagnostic du milieu pour évaluer la situation actuelle. Adopter une politique municipale claire en équité, diversité et inclusion. Mettre en œuvre un plan d'action adapté aux réalités locales. Former le personnel municipal et les personnes élues sur les enjeux liés aux diversités. Évaluer et suivre régulièrement les mesures mises en place. Posez la question « Vous engagez-vous à obtenir la certification MIC+ si vous êtes élu ?» revient à inviter une personne candidate à inscrire des actions concrètes dans son programme pour bâtir un milieu sécuritaire où tout le monde a sa place. Comment interpeller les personnes candidates? Pas besoin d'être une personne experte en politique municipale pour ouvrir la conversation. Voici quelques pistes. Question directe. Si vous êtes élu, allez-vous engager la municipalité dans le processus de la certification MIC+? Vérifiez la connaissance du programme. Beaucoup ne le connaissent pas. Expliquez, c'est un programme clé en main, financé jusqu'en 2026, qui accompagne la municipalité de A à Z. Mettre en avant les bénéfices pour toute la population. L'inclusion profite à tout le monde. Sécurité accrue, attractivité pour les nouvelles familles, meilleure cohésion sociale. Invité à rencontrer le JAG. C'est gratuit jusqu'en 2026 et comprend formation et accompagnement. Soulignez que c'est concret, pas symbolique. La certification implique des politiques, des actions et un suivi mesurable. Pourquoi chaque voix compte? On pourrait croire que l'inclusion est acquise en 2025. La réalité est différente. Trop souvent, des personnes issues des communautés LGBT+, des minorités culturelles ou vivant avec un handicap subissent encore exclusion, harcèlement ou discrimination dans leur propre municipalité. Les municipalités jouent un rôle clé. Envoyez un message fort à la population, aux entreprises et aux personnes visitant leur territoire. Ici, chaque personne est la bienvenue. Mais cela exige que l'équipe municipale en fasse une priorité et passe de l'intention à l'action. Chaque question posée, chaque engagement obtenu avant les élections augmente les chances que le sujet soit à l'ordre du jour après les élections. Exemple d'action MIC+. Voici des mesures déjà mises en place par des municipalités engagées dans le processus. Formation du personnel municipal et des personnes élues. Mise en place de toilettes universelles dans les bâtiments publics. Adoption du langage épicène pour rendre les communications plus accessibles. Et bien plus encore. Ce ne sont pas des gestes symboliques, mais des changements structurels qui façonnent un milieu plus juste, accueillant et sécuritaire. Un moment à saisir. Aux prochaines élections municipales, ne nous contentons pas des promesses sur les routes et les taxes. Parlons inclusion, parlons sécurité, parlons respect. Et surtout, demandons à chaque personne candidate si elle s'engage à faire de notre municipalité un milieu de vie certifié MIC+. Le meilleur moment pour que la municipalité s'engage, c'est maintenant. Et le meilleur moment pour obtenir cet engagement, c'est pendant la campagne électorale. Car pour bâtir une communauté où chaque personne peut vivre pleinement, commence par un geste simple, poser la question. Pour plus d'informations concernant cette certification, consultez le site web Le JAG à l'adresse lejag.org/MIC. Vous pouvez également nous écrire à mic+@lejag.org. C'était Élection municipale. Et si on exigeait des engagements concrets pour l'inclusion? Une chronique de Christian Généreux, parue le 28 août 2025 dans le magazine Fugue.
L'Association internationale des chercheurs en génocide accuse Israël de génocide à Gaza. Un texte de Wafa Shourafa, Sami Magdi et Sam Metz de l'Associated Press, paru le 1er septembre 2025 dans Le Devoir. Israël a lancé lundi des frappes dans la bande de Gaza, tuant au moins 31 personnes et poursuivant une offensive majeure dans la plus grande ville du territoire, selon les autorités de la santé. D'éminents spécialistes du génocide se sont aussi joints à d'autres groupes de défense des droits de la personne pour accuser Israël de génocide, des allégations que le pays rejette avec véhémence. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont retenti dans la ville de Gaza depuis qu'Israël l'a déclarée zone de combat fin août 2025. Aux abords de la ville et dans le camp de réfugiés de Jabalia, les habitants ont observé des robots chargés d'explosifs démolir des bâtiments. Les hôpitaux de Gaza ont indiqué qu'au moins 31 personnes avaient été tuées par des tirs israéliens lundi le 1er septembre 2025, dont plus de la moitié étaient des femmes et des enfants. Au moins 13 personnes ont été tuées dans la ville de Gaza, où Israël a mené plusieurs attaques de grande ampleur depuis que des militants du Hamas ont attaqué le sud d'Israël, déclenchant la guerre le 7 octobre 2023. Israël affirme ne cibler que les militants et impute au Hamas la responsabilité des pertes civiles, car le groupe militant, désormais largement réduit à une organisation de guérilla, opère dans des zones densément peuplées. Les habitants de Gaza, dont beaucoup ont été déplacés à plusieurs reprises par la guerre, sont désormais confrontés à la double menace des combats et de la faim. l'autorité mondiale en matière de crise alimentaire, a déclaré le mois dernier que la ville était en proie à la famine. Cette crise est alimentée par les combats incessants et le blocus israélien. En plus d'être aggravée par les déplacements massifs répétés et l'effondrement de la production alimentaire. Au total, 63 557 Palestiniens ont été tués pendant la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui indique que 160 660 autres personnes ont été blessées. Le ministère ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte, mais affirme que les femmes et les enfants représentent environ la moitié des morts. Le ministère fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, mais son personnel est composé de professionnels de la santé. Les agences de l'ONU et de nombreux experts indépendants considèrent ces chiffres comme l'estimation la plus fiable des victimes de guerre. Israël les conteste, mais n'a pas communiqué son propre bilan. Des chercheurs accusent Israël de génocide. La plus grande organisation professionnelle de chercheurs étudiant le génocide a déclaré lundi qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Israël, créé au lendemain de la Shoah, au cours de laquelle 6 millions de Juifs européens et d'autres personnes ont été tués, rejette catégoriquement cette allégation. Le pays affirme prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de nuire aux civils et mener une guerre de légitime défense après l'attaque du Hamas du 7 octobre, qu'Israël qualifie lui-même d'acte génocidaire. À ce jour, au moins 60 459 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués par la riposte israélienne à Gaza. L'Association internationale des chercheurs en génocide, International Association of Genocide Scholars, qui compte environ 500 membres dans le monde, dont plusieurs experts de la Shoah, s'est jointe à d'autres grandes organisations de défense des droits de la personne, dont deux groupes israéliens, pour appliquer ce terme à la conduite d'Israël en temps de guerre. Les politiques et actions d'Israël à Gaza répondent à la définition juridique du génocide, ainsi qu'à celle de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, selon la résolution de l'association soutenue par 86 % des personnes ayant voté. L'organisation n'a pas divulgué les détails du vote. Les experts en génocide peuvent voir cette situation telle qu'elle est réellement, a déclaré à l'Associated Press Melanie O'Brien, présidente de l'organisation et professeure de droit international à l'Université d'Australie-Occidentale. Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié cette situation de honteuse pour la profession juridique et pour toute norme académique. Il a soutenu que cette décision était entièrement fondée sur la campagne de mensonges du Hamas. Une tempête force le retour d'une flottille militante. Par ailleurs, une flottille militante partie de Barcelone et se dirigeant vers Gaza a été contrainte de rentrer au port après qu'une tempête a frappé certaines régions d'Espagne pendant la nuit. La Global Sumud Flotilla, composée d'une vingtaine de bateaux et de participants venus de 44 pays, a choisi de rentrer et de retarder son départ pour privilégier la sécurité, a indiqué un communiqué. L'expédition comprend notamment la militante écologiste Greta Thunberg, qui avait participé à une précédente flottille interceptée en juillet. Les organisateurs ont déclaré qu'avec des vents dépassant 56 km à l'heure, certains des plus petits bateaux participant à la mission auraient été en danger. La flottille est la plus grande tentative à ce jour visant à briser symboliquement le blocus israélien de Gaza. Toutes les précédentes ont été interceptées en mer par les forces israéliennes. Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher le Hamas d'importer des armes et qu'il existe de multiples autres voies d'acheminement de l'aide à Gaza. Israël a pris des mesures pour restreindre davantage l'acheminement de nourriture vers le nord du territoire alors qu'il poursuit sa dernière offensive dans la ville de Gaza. C'était l'Association internationale des chercheurs en génocide accuse Israël de génocide à Gaza. Un texte de Wafaa Shourafa, Sami Magdi et Sam Metz de l'Associated Press, paru le 1er septembre 2025 dans Le Devoir.
Tatouages sont-ils dangereux? Un texte de Marine Corneau, paru le 15 mai 2025 dans le magazine Québec Science. Alors que le tatouage a le vent en poupe, les interrogations sur les risques liés à cette pratique s'intensifient. En effet, on sait peu de choses sur la composition et le devenir des encres qui demeurent à vie dans la peau. En matière de tatouage, Kathleen Desrosiers n'est pas une débutante. Cette soudeuse professionnelle en a plein et n'a jamais eu de problème. Du moins jusqu'en 2024, lorsqu'elle a fait une réaction à l'un de ses plus récents dessins. Tracé sur son bras droit, il représente un boxeur moustachu avec deux gants rouges. Des gants qui ont soudainement pris du relief sous l'effet d'une boursouflure très localisée. Citation, « Un an après m'être fait tatouer, j'ai senti que le rouge commençait à piquer. Puis, ça va, ça vient, mais c'est parfois très douloureux. » Fin de citation raconte cette quadragénaire. Selon son tatoueur, elle n'est pas la première cliente à faire une allergie à l'encre rouge, mais il n'a pas assuré de suivi pour autant. Combien de personnes comme Kathleen ont de mauvaises surprises à la suite d'un tatouage? Difficile à dire, car les cas d'allergie ne sont presque jamais signalés par les médecins. Chose certaine, il s'agit de la complication la plus fréquente liée à cette pratique, et l'encre rouge est celle qui cause le plus de réactions. Les symptômes peuvent apparaître immédiatement ou plusieurs mois après le passage sous les aiguilles. On les soulage en appliquant des corticoïdes, une catégorie d'anti-inflammatoires, mais il faut parfois détatouer la zone au laser, voire la retirer par chirurgie si la réaction perdure. Kathleen Desrosiers n'en est pas là, mais pour elle, la couleur s'est terminée. Ses prochains tatouages seront noirs. Selon un sondage de Narrative Research de 2024, un tiers de la population canadienne arbore au moins un tatouage. Chez les millénarios, c'est même 51 %. En Europe et aux États-Unis, on estime que de 30 à 40 % des moins de 40 ans sont tatoués. Il faut donc s'attendre logiquement à une augmentation du nombre de cas d'allergies, d'infections et d'autres complications. Pour autant, on en sait très peu sur la composition des encres qui sont injectées dans le derme. Et il reste à vie. Citation, Il n'y a pas vraiment de réglementation au Canada, résume Yolanda Edberg, professeure de chimie à l'Université Western Ontario, qui s'est penchée sur le sujet. On y trouve en vrac des nanoparticules, des métaux lourds, des hydrocarbures aromatiques et des pigments également utilisés dans l'industrie automobile ou les imprimantes. La recherche aussi est parcellaire. On ne sait pas très bien ce que devient l'encre une fois dans le corps, comment elle se déplace, se dégrade, est en partie éliminée, etc. Malgré leur caractère permanent, les quelques 1400 encres utilisées pour marquer la peau sont considérées comme de simples « cosmétiques » entre guillemets par Santé Canada et par la Food and Drug Administration américaine. Elles ne sont donc pas testées pour l'injection intradermique. Citation, les produits cosmétiques ne font pas l'objet d'une autorisation avant la mise en marché, mais sont réglementés selon un système de surveillance post-commercialisation. C'est à l'industrie qu'il incombe de veiller à ce que les produits qu'elle fabrique, importe ou vend, soient sûrs. Fin de citation, indique Joshua Koch, relationniste à Santé Canada. Hélas, le manque de transparence des fabricants laisse songeur, d'autant que des études récentes avancent que les tatouages pourraient augmenter le risque de certains cancers. Flou total. Il y a quelques années, alors qu'elle s'intéressait aux allergies aux métaux, Yolanda Edberg a été interpellée par les dermatologues avec qui elle travaillait. Citation, « Ils voyaient beaucoup d'allergies aux tatouages et avaient le sentiment que les ingrédients étaient mal listés sur les bouteilles d'encre. » Fin de citation, se souvient la chimiste. Elle concocte alors un protocole pour tester la composition de 73 encres disponibles sur le marché. Le résultat est choquant. 93 % des encres sont mal étiquetées, avec des ingrédients omis ou mal référencés. La scientifique décèle plusieurs métaux, aluminium, titane, cuivre, dont les taux dépassent parfois les limites de sécurité, selon l'étude parue en 2021. Citation, « C'était terrible. Pour une marque coréenne, Dragon, toutes les étiquettes étaient erronées. Mais même les grandes marques américaines cumulaient les erreurs. » Fin de citation. 3 ans plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Une étude américaine publiée en 2024 dans le journal Analytical Chemistry s'est penchée sur 9 marques d'encre populaires en Amérique du Nord. Sur les 54 encres analysées, 45 contenaient des additifs ou des pigments qui ne figuraient pas sur l'étiquette. Citation, on a, par exemple, découvert du propylène glycol dans plusieurs bouteilles. Ce solvant est généralement sans danger, mais certaines personnes y sont gravement allergiques, explique John Swierk, S-W-I-E-R-K, de l'Université Binghamton, dont l'équipe a mené l'étude. Citation. Attention, nos résultats ne disent rien sur le risque pour la santé, tient à préciser le chercheur. Mais si on veut savoir si les tatouages sont sécuritaires, il faut commencer par connaître la composition des encres. Notre but, c'est que la clientèle et les artistes tatoueurs puissent être informés et prendre les meilleures décisions. Fin de citation. Notamment en cas d'allergie connue à un composant d'une encre. L'analyse chimique complexe ne facilite pas les contrôles. Les encres sont des mélanges de pigments insolubles dilué dans de l'alcool et diverses substances qui augmentent la conservation et la viscosité. Citation, une encre typique peut facilement contenir 2 ou 3 pigments du glycérol, de l'alcool isopropylique. Dans certains cas, on a trouvé 4 ou 5 composants supplémentaires qui n'est pas listé, détaille le chimiste, dont les analyses sont accessibles sur le site whatsinginmyink.com, whatsinmyink.com. Citation, il y a des erreurs de bonne foi, affirme Yolanda Edberg, notamment car les chaînes d'approvisionnement en matières premières sont difficilement traçables. Mais on a fait une analyse statistique et la plupart des erreurs bénéficiaient plutôt aux fabricants. Par exemple, ne pas mentionner la présence d'un pigment interdit sur le marché européen, plus strictement réglementé. Fin de citation. Ce n'est pas tout. Certaines encres ne respectent pas non plus les exigences en matière de limites microbiennes, comme l'a constaté Santé Canada lors de contrôles effectués en 2022. En juillet 2024, des microbiologistes américains ont découvert des bactéries dans plus du tiers des encres de tatouage ou de maquillage permanent vendues aux États-Unis. Si la bouteille scellée est contaminée, le salon de tatouage aura beau respecter toutes les normes d'hygiène, le risque d'infection sera élevé. La fin du vert et du bleu? En 2020, l'Union européenne a revu sa réglementation sur les encres de tatouage et de maquillage permanent et a interdit 27 de pigments, dont les fameux vert 7 et le bleu 15 2.3. Fameux dans les salons de tatouage, du moins où leur disparition effective en 2023 était fortement déplorée. Aucune autre formulation satisfaisante ne les remplace. Citation, ces deux couleurs sont présentes dans 95 % des encres bleues, turquoise, violette, verte. Elles ont été interdites car elles ont été associées à des problèmes dans les teintures capillaires. Mais cela n'a rien à voir avec les tatouages. Fin de citation, remarque Nicolas Gluger, dermatologue. Encore autorisés en Amérique du Nord, ces pigments ont fait injustement les frais de la réglementation REACH, R-E-A-C-H, qui régit tous les produits chimiques en Europe, selon les deux chimistes interviewés dans ce dossier. Le risque, qu'ils soient remplacés par des pigments non évalués et encore moins sécuritaires. Citation, les encres de tatouage ne sont ni des cosmétiques ni des produits pharmaceutiques et devraient donc faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les valeurs et les limites fixées par REACH sont totalement théoriques, déplore Michael Dirks, un ingénieur en chimie allemand qui a fondé l'entreprise 3Pylons, P-Y-L-O-N-S, qui délivre des conseils aux fabricants d'encre. Selon le pays où vous vous faites tatouer, vous n'aurez donc pas accès à la même palette de couleurs. Mais l'étiquetage étant ce qu'il est, les pigments interdits en Europe y circulent encore largement. Selon une étude récente du chimiste John Swart à l'Université Binghamton, environ 90 % des encres sont fabriquées aux États-Unis et ne respectent pas forcément la réglementation européenne. Vous écoutez « Tatouages, sont-ils dangereux? » Un texte de Marine Cornu paru le 15 mai 2025 dans le magazine Québec Science.